Maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Ne te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Tu te sens pas en joie?
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est prodigieux.
Et ça là, sent le bon. Hein.
Moi, c'est ça que j'ai pris ça parce que c'est vraiment typique bolognais. Le process est assez long en fait.
Bah oui. Le process.
Ça, faire à la maison, c'est facile. Hein.
C'est quand même...
avec des épinards par exemple et des petits pignons.
Regarde-moi ça. C'est presque un effeuillage.
Du process à la procession, j'aime ces tribulations, ces balades gourmandes. Nous sommes dans la capitale des Gaules, nous sommes au pays de Paul Bocuse et de Karim Benzema, mais je vous rassure, on va pas parler de football, Pierre-Brice Lebrun.
Bonjour. Ah bah non, parce que sinon je m'en vais, si c'est du foot, je me casse tout de suite. Non.
Dadou Ronron, il est 10h du matin, Bonjour Thomas Mercuso.
Bonjour.
On est chez vous, on est au Cochon à Plumes, Place Saint-Roch, Mont-de-Marsan. On s'est dit, on a l'habitude de manger à toutes les heures, on n'avait pas encore fait le 10h du matin.
Non mais j'ai la bouche pleine. Essaye le machon de Lyon.
Thomas le transforme en machon gascon, quoi, on va dire.
Le machon, ce machon de spécialité typiquement lyonnaise, le machon à la sauce gasconne que vous allez lancer ici à partir du 3 décembre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de copier et de ramener en Gascogne des spécialités et surtout une culture de la boostifaille. Voilà, à Lyon, bon...
Culture matinale.
L'idée du machon, en fin de compte, c'est de pouvoir se faire un bon casse-croûte le matin et à partir de bonne heure autour des produits tripiers, autour d'abats, autour d'un morceau de viande, d'un bon coude rouge, etc. Et pour nous, parce qu'on n'est pas en resto, on est une charcuterie locale, ça correspond tout à fait à notre identité. Donc ce qu'on fabrique, et de le ramener en fin de compte dans des assiettes.
Finalement, nous sommes nos propres intermédiaires. On est dans la ripaille, on est dans le festin. Le machon, qu'un sang impur, il y a du boudin.
Alors il peut y avoir du boudin, il y a surtout beaucoup de tripes. C'est quasiment l'ancêtre du brunch, si vous voulez.
Oui.
Et il y a même un ancêtre du machon qui s'appelle...
Je fais des bruits de bouteille pour que ça soit crédible.
Un ancêtre du machon qui s'appelle la chiquaison.
La chiquaison.
En fait, le truc, c'est les ouvriers canuts qui allaient travailler le matin très tôt. Bah, ils passaient au pied de la Croix Rousse, là où ils habitaient. C'est là qu'il y a la plupart des bouchons lyonnais. Et donc, ils prenaient l'espèce de petit déjeuner avec tous les plats réchauffés de la veille au soir. Et on avait une clientèle d'ouvriers, de bourgeois qui se mélangeaient. C'est vraiment le gros petit déj roboratif pour ceux qui vont bosser toute la journée.
Il n'y a pas de différence entre le bouchon parisien et le bouchon lyonnais
Le bouchon, c'est vraiment le restaurant typique de Lyon dans lequel on mange. Certains types de plats très typiques, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très encadré, mais en fait, c'est très, très populaire. Et on est sur des plats traditionnels, alors à base de charcuterie, évidemment, terriblement, et beaucoup à base de tripes, à base d'abats, parce qu'on parle d'ouvriers, donc pas cher, on ne pouvait pas taper dans des steaks, dans des rhum steaks. Voilà, on était vraiment dans cette gastronomie lyonnaise extrêmement forte, avec cette fameuse cervelle des canuts, avec tous ces plats, extrêmement, le saucisson, le double rognon, le saucisson. Alors il y a un saucisson pistache brioché, c'est un truc de fou.
On n'est pas dans la légumineuse, hein, on est bien d'accord.
Alors si, il y a de la lentille, il y a de la lentille, la lentille verte du puits, excellente. Il y a des salades de lentilles, et puis la cervelle de canut, c'est du fromage blanc avec de la ciboulette.
La cervelle de canut, donc référence à... Oui.
Il y a deux...
Bien sûr, Albert Camus, littérature, référence, nourriture, j'aime ça.
Et donc, cervelle de canut, il y a une des légendes, ce serait que c'est comme ça que les bourgeois pensaient qu'étaient les canuts, donc une cervelle de fromage blanc, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. C'est une légende, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est un truc assez fabuleux. C'est ces fameux fromages blancs avec des herbes. Ouais. Et on va rajouter des échalotes, tout ça, ça fait glisser. Et on mange avec une salade de pissenlit, souvent. Donc, vous voyez, il y a plein de verdure. Ouais.
À que nos pères étaient heureux, à que nos pères étaient heureux quand ils étaient à table. Le vin coulait à côté d'eux, le vin coulait à côté d'eux, ça leur était fort agréable. Et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous morbleux, bien autrement que nous, morbleux, bien autrement que nous.
Mais alors, sociologiquement parlant, le bouchon, c'est quand même génial. C'est la bourgeoisie qui se mêle au monde ouvrier. Le monde entier devrait être en bouchon.
Oui, oh, le oui, monde, oui, oui. On a dans toutes les régions des trucs comme ça. Les estaminets dans le nord de la France, oui, c'est pareil. Oui, on a, oui, voilà, les auberges.
Les auberges gasconnes.
Les auberges gasconnes.
Voilà. Non, mais de toute façon, la mixité dans la bouffe, c'est un passage obligatoire. Ouais. Voilà, il n'y a pas que les bourgeois qui vont manger du caviar et de la truffe tous les jours.
C'est pas bon à la louche.
Non, là, bon, voilà, pour manger des gras doubles, nous, ici, à la boutique, on a toutes catégories qui viennent nous voir juste pour se taper une bonne cloche, c'est tout.
L'assiette ou le menu type, hein.
D'abord, ça commence par un apéro avec du blanc. Donc,
me rassurez.
Oui, bien sûr. On est dans. Alors,
il est 10h du matin, on rappelle. Hein.
Ah oui, mais attention, le machon, c'était plutôt 7h, 7h30. Ah oui, ils allaient bosser,
les ouvriers, c'est les gens courageux.
Voilà, 8h. Donc, maintenant, quand ils le font à Lyon, parce qu'il y a des restaurants qui le font toujours, ouais, et qu'on peut trouver assez facilement, ils sont regroupés dans la confrérie du franc machon. Ça ne s'invente pas.
Bah,
faut absolument.
Une sorte de pays de lumière.
Ah, nous avons notre grand Orient qui est là.
Je suis votre grand Orient.
Je suis illuminé moi-même.
Donc on commence par un apéro au vin blanc avec de la rosette ou des gratons. C'est des morceaux de gras de porc frit.
Très salé, ça.
Oui, mais c'est très important parce que ça va commencer à préparer le tube digestif à ce qui arrive après.
C'est très salé, on doit étancher sa soif.
Effectivement. Ensuite, on va passer au rouge. Ça, c'est très important. Et on va attaquer avec, par exemple, un tablier de sapeur. C'est un morceau de pan spané qui est servi avec une sauce gribiche.
C'est un plat, on est bien d'accord.
Ah oui, c'est un plat, bien sûr.
Non, parce que j'ai une autre référence qui n'a rien à voir.
Pas du tout, non. On est
forcément comestible,
nous sommes uniquement dans la gastronomie, là.
J'entends bien.
Non, mais vraiment. Un petit saucisson, ça peut être pas mal, hein, donc brioché ou non, avec ou sans pistache. Des pieds et fumés. Des pieds, des joues, de la tête, des rognons, de la tête de veau, des cervelles, des petites cervelles.
Toute la partie du corps du cochon, puisque.
Voilà, tous les abats, si vous voulez. Tous les abats. Mais pas que du cochon, parce qu'on a de la fraise de veau aussi. Par exemple, l'andouillette de Lyon, elle est faite à la fraise de veau, alors que l'andouillette de Troyes, on en a déjà parlé, elle est faite pure porc.
Et la fraise de veau frite aussi, ou
directement. On peut faire de la fraise de veau frite, on peut faire aussi de la fraise de veau simplement.
Côté chips, quand
même. Ouais, comme les oreilles de cochon. On finit en général par un bout de fromage, et c'est souvent un Saint-Marcelin. Parce qu'on est aussi dans le coin. Par contre, attention, jamais de dessert. Jamais de dessert à un machon. Et c'est dommage parce que, alors oui, tant mieux peut-être, mais il y a quand même une merveille à Lyon, c'est la tarte à la praline.
La tarte à la praline.
Voilà. Mais n'empêche qu'une tarte. Enfin, moi je dirais que.
On a une expression de rugby.
Ouais, mais la tarte à la praline, ça peut être. Moi je pense à n'importe quelle heure, franchement. D'ailleurs, ils en vendent partout à Lyon.
Mais ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à une tarte, vous voyez, rose fluo parce qu'à la praline. Donc c'est une espèce de praline qui a été écrasée, mélangée, crème. Et puis il y a des morceaux de praline dedans. Ils font des brioches aussi à la praline. Enfin, on en reparlera un jour de ça, tiens.
Je veux.
Ah ouais, la praline.
Alors, espèce de satire. Alors, revenons à ce qui nous amène quand même ici. À partir du 3 décembre, un machon, mais pas un machon lyonnais, pléonasme, mais donc un machon gascon. À quoi ça peut ressembler, mon cher Thomas?
Écoute, déjà, on passe par la charcuterie, ce qu'on appelle la charcuterie cuite, hein, c'est-à-dire le boudin, ce qu'on est en train de déguster, là, la poitrine de porc fumé. Ça passe aussi par le pastrami, ça passe par une terrine de caille ou au foie gras qu'on va goûter là tout à l'heure d'ailleurs. Donc on a toute cette charcuterie cuite là qui est servie juste comme ça dans une assiette, tu vois, dans les 5 balles, tu vois, comme ça, avec un morceau de pain, un quignon de rouge. Et ensuite pour les plats chauds, donc les plats en sauce, pour l'hiver on va continuer donc le gras double, les rognons, la tête de veau, puis bon, vers la fin d'année si on a envie de se faire plaisir, on a des riz de veau bien sûr. Hein. Bon, mais c'est pas tout à fait là, le principe c'est plutôt en fait d'avoir un plat pop où on est entre 5 balles et 10 balles par tête de pipe, voilà, et d'instaurer ça à partir de 7h30, 8h le matin, et puis voir comment ça se passe.
Tous les samedis.
Oui.
Ouais.
Ah oui, tous les samedis, là on a une tablée avec, on a de quoi poser 10 personnes ici, voilà, tout le monde est les uns à côté des autres, c'est populaire.
C'est un peu comme dans une cidrerie basque, voilà, ouais, où tout le monde, ça, sûr, tout le monde se mélange.
Et comme dans un bouchon, ou dans ces auberges gasconnes, tu vois, que t'as beaucoup en Haute-Hollande, tu sais, où t'as ces grandes tablées, là où c'est posé, ils viennent te ramener une gamelle avec le plat chaud, tu vois, à l'intérieur. C'est un peu l'idée, quoi.
Ouvrir. Et bourgeois, en fait, seigneur, serf, tout ça, le monde est là.
On trouve ça dans toutes les régions de France, ça se perd malheureusement, mais en Alsace, les Windstube, t'arrives tout seul dans.
Comment vous dites ?
Windstube.
J'adore.
Et c'est ça. Et quand tu arrives tout seul dans un Windstube, bah, tu te retrouves forcément à une table où il y a d'autres personnes. Et du coup, tu devais manger tout seul, ce qui est d'une tristesse absolue le soir. Là, tu manges avec des gens que tu ne connais pas, qui n'ont pas pris la même chose que toi à manger, qui n'ont pas pris la même chose que toi à boire. Donc tu partages, tu compares, tu discutes, tu rigoles. Voilà, et tu passes un excellent moment.
Il y a un côté sociétal, ouais. En fait, dans ces grandes tablées.
Mais quand même mieux qu'au Qatar. Hein.
Ah bah oui, franchement. Et vous parliez de cidrerie basque, on est dans la même principe. Oui. Il faut surtout pas que ça se perde, et ça se perd. Il ne faut pas que ça se perde au profit de restaurants où il y a du sous-vide, où il y a des trucs comme ça. Il faut essayer de remettre en place ces machins où on mange. Parce que le gras double,
ouais. Franchement.
Non, mais le gras double, je ne sais pas si tout le monde connaît le gras double, mais c'est un machin. C'est,
oui, le plat nous regarde.
Le plat nous regarde, mais c'est beau, c'est poétique, c'est artistique, c'est savoureux, ça sent magnifiquement bon.
C'est du cubisme.
C'est du cubisme.
Du cubisme. On va jusque-là, c'est bien. Ouais,
non, mais... Il ne savait ni le latin, il ne savait ni le latin. Ni la théologie, mais ils avaient le goût du vin, mais ils avaient le goût du vin. C'était là leur philosophie, et ils buvaient à plein tonneau, comme des trous morbleus, bien autrement que nous, morbleus, bien autrement que nous.
On est dans l'art, on est dans l'histoire aussi. On parlait de la cervelle des canuts, puisqu'on est à Lyon. Donc on est au pays de Guignol.
Au pays de Guignol, ouais. Guignol qui d'ailleurs a été inventé par un canu au chômage. Il n'y a pas beaucoup de canuts au chômage, mais lui, ouais. Il a inventé Guignol. Et c'est rigolo, il était colporteur et ensuite il était arracheur de dents. Et il a commencé en 1700.
Mentir comme un guignol.
Alors mentir comme un guignol. Mais c'est surtout qu'il a été arracheur de dents et qu'il se servait des marionnettes pour que les gens soient distraits pendant que les clients étaient, on va dire, opérés ou traités. Ça évitait de les entendre hurler, puisqu'à l'époque, c'était quand même pas terrible. Niveau anesthésie, et donc il détournait l'attention avec ses marionnettes. Et ensuite il a inventé Gnafron dans les années début 19e. Et Gnafron, c'est paraît-il un type qu'il connaissait vraiment, qui était une espèce de cordonnier, voilà, typique de la Croix-Rousse. Il faut aller à Lyon, il faut aller à la Croix-Rousse, il faut aller se balader dans ces quartiers là, c'est magnifique. Il y a encore une histoire extrêmement forte, quoi.
C'est Guignol avec son chapeau noir, ses gros sourcils et son bâton. On dirait Marc Vera. Physique, ah ouais, c'est un peu ça.
Oh oui. Mais Marc Vera, c'est le contraire du bouchon. C'est tout sauf convivial. C'est cher.
Ah,
c'est
quand même.
C'est limité à une élite qui va payer une fortune. Des trucs qui souvent.
J'attendais qu'il sorte la sulfateuse.
Non, mais c'est vrai. Marc Vera, c'est pas de la restauration. C'est. Enfin, voilà. Moi, j'y ai mangé. C'est pas bon.
Bon, alors, on va parler de choses qui fâchent pas, du coup. On va parler de se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus?
Un verre de rouge.
Ouais.
Alors, bien sûr, du Beaujolais. Parce que.
Bah,
mais oui, mais ce pauvre Beaujolais, si on peut en toucher deux mots. Maintenant, tout le monde pense que le Beaujolais, c'est le Beaujolais nouveau, dégueulasse, ouais. Qu'on trouve au magasin du coin.
Il y a du Beaujolais et du vin.
Ouais. Mais oui, mais le Beaujolais, il y a 10 crus fabuleux. Le Morgon, le Juliennas, le Saint-Amour, le Fleury, ce sont des vins somptueux. Et il y a des Beaujolais nouveaux qui sont exceptionnels. Il y a même des Beaujolais nouveaux maintenant qui deviennent des vins de garde. C'est-à-dire, on a fait beaucoup de pro. Il faut faire très attention au Beaujolais. On dit que c'est un petit vin festif, rigolo, c'est vrai. Il y a des Beaujolais somptueux. Et donc, on est vraiment sur les vins du Mâconnais, les vins du Beaujolais. C'est vraiment ce qu'on va retrouver, les Côtes-du-Rhône éventuellement.
Sans être obligé de péter le PEL.
Non, pas du tout. C'est pas du tout cher. Non, chouette.
Et puis bon, ce sont des cépages quand même qui sont. Enfin, on les appelle moins prestigieux, mais au final, c'est très très bon. C'est le cépage et le gamay là-bas, hein, voilà. Ouais. Donc ça c'est quelque chose.
Non, mais le fleury, le chirouble, c'est des vins, le Juliennas, le Morgon, c'est des grands vins.
Vous savez que je pourrais rester très très longtemps comme ça, moi.
On te voit heureux.
Nous aussi, Anthony, sauf qu'il y a un petit souci, c'est que pendant qu'on vous parle, on mange pas et c'est en train de
refroidir.
Et alors vraiment, le gras double, c'est meilleur chaud.
Oui,
donc moi je vais vous laisser et je vais aller discuter avec mon ami gras double.
Bon, bah alors je vais faire un petit rappel qu'avec Thomas pour le 3 décembre, on arrive ici à partir de 7h30, 10h, il y a que c'est quoi c'est,
oui,
y a
des gens... 7h30 jusqu'à pas d'heure, voilà, on va faire comme ça, on va démarrer, puis après on se calera avec la clientèle.
Il y a des figures imposées, des petites choses au choix, ou ça sera... Voilà,
oui, il y a 2-3 plats au choix, et puis en charcuterie, tu vois ce
en fonction fait, de l'inspiration,
voilà.
C'est inépuisable.
Et puis ça, on va fêter nos 1 an.
En plus.
Mais oui, c'est les 1 an de la boutique, là. Le 4 décembre, c'est les 1 an de la boutique.
Est-ce qu'on peut mettre une bougie sur le gras double? Je pose la question.
Par contre, on peut dessiner avec la panse.
On va pas mettre la bougie parce qu'on va lui casser sa gueule, la station de gras double, immédiatement.
Et pour revenir sur le gras double, en fin de compte, gras double, c'est, entre guillemets, c'est un petit peu un faux ami, parce que c'est pas qu'il y a double de gras.
Ouais.
C'est juste que c'est la panse la plus épaisse qui est utilisée pour faire ce plat.
Ouais.
Ouais. Donc c'est pas le truc super gras, super lourd, etc. Enfin, moi, je le considère pas comme ça, tu vois. C'est les morceaux de panse les plus épaisses.
Il y a des carottes. Parce que on dit toujours il n'y a pas de légumes. Là, je suis désolé, il y a des carottes. Non, mais c'est important de le dire. Il y a des légumes, il y a des carottes, ça rend aimable et ça donne une couleur à ce gras double.
Bah oui, et puis alors moi, je préfère faire du double gras, du triple gras, même, mais avec des vrais amis. C'est voilà. Ça. Bon appétit, les gars, merci.
Tadam.
Oh, tiens. Là.
À vous.